Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, Happy Hour, leur retour en cette rentrée, la rentrée dont l'heure a peu ou prou sonné pour tout le monde à présent, rentrée scolaire, rentrée politique et rentrée sociale, et c'est sur cette dernière que va porter cette émission. 3 mois ont passé depuis le 15 juin dernier, journée qui est venue marquer, si ce n'est la fin, du moins la pause d'une période contestataire que l'on peut dire d'ampleur, celle de 6 mois de lutte contre la réforme des retraites, laquelle réforme vient entrer en vigueur en ce début de septembre. 3 mois donc depuis ce dernier appel à la mobilisation nationale lancé par l'intersyndicale et à 1 mois presque pile aussi d'une nouvelle manifestation du même ordre, celle du 13 octobre prochain. Contre l'austérité, ce sont les maîtres mots de cette rentrée sociale. La bataille continue donc, alors comment l'envisagent-ils cette rentrée sociale? Et si l'on ne doute pas de leur ténacité respective, celle de leur union qui a fait leur force ces derniers mois, est-elle toujours de vigueur? Et si oui, à l'aune de quel combat, que ce soit au niveau national mais aussi départemental? En somme, quelle place entendent et peuvent occuper aujourd'hui les syndicats? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui 2 représentants syndicaux de Lozère, Guillaume Martin, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la CGT de Lozère. Pour vous, c'était la rentrée la semaine dernière, d'ailleurs. Hervé Fumel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, quant à vous, secrétaire général de la FSU Lozère. Est-ce que c'est juste FSU ou il y a FSU, SNIWIP, qu'il faut dire?
C'est la Fédération et la FSU.
Très bien, c'est noté.
Bonjour. Qui est composé de très nombreux syndicats nationaux.
Voilà, c'est ça. Je préfère être sûre de la précision. Merci à tous les deux d'être là pour cette première Happy Hour de la rentrée. Et laissez-moi sans plus attendre introduire nos 2 chroniqueurs. J'ai nommé l'indéfectible Eric. Salut à toi.
Oui, bonjour les gens.
Tu as passé de bonnes vacances?
Ça a été.
De quoi tu vas nous parler pour cette première Happy Hour de la rentrée?
J'ai peut-être trouvé la solution au problème. Là, c'était quasiment sous nos yeux et c'est pas de la poudre de perlimpinpin.
Ah, c'est génial. Et puis Béranger, bonjour à toi. Tu es notre nouvelle recrue qu'on est bien content d'accueillir.
Merci. Bonjour à toutes et à tous.
Et pareil, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui?
Alors moi, je vais parler de mon rapport à la politique, au syndicalisme et aux délégués du personnel.
Très bien. J'en profite pour glisser un petit mot à Cyril, notre désormais ancien chroniqueur qui est parti pour d'autres contrées en tant que bénévole. Cyril, que l'on remercie donc pour son engagement à 48FM et à qui on souhaite une bien bonne route. Allez, fini le temps des présentations. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Hervé Fumel, Guillaume Martin, on vous a réunis pour cette émission. Mais sans notre concours, votre union au syndicat, elle est toujours d'actualité en cette rentrée?
Oui, effectivement, elle est toujours de vigueur, parce que cette union, elle a fait la preuve qu'on pouvait rassembler énormément de citoyens dans la rue, et je pense que il faut qu'on continue sur cette lancée-là. Bon, il y a déjà une nouvelle action qui est prévue le 13 octobre, et une fois de plus, les 8 organisations syndicales qui s'étaient battues au premier semestre de cette année contre la réforme de retraite appellent unanimement à manifester ce jour-là, et c'est plutôt de bon augure pour la suite.
Mmh. 13 octobre, hein, qui viendra marquer donc l'heure pour l'intersyndicale de cette rentrée sociale officiellement, même s'il y a d'autres mouvements, on va en parler un peu plus tard. C'est un appel à manifester qui s'inscrit, on le précise, dans les pas de la Confédération européenne des syndicats. Donc c'est quelque chose de plus large que national, hein, finalement. Ça aussi, c'était important?
L'unité à différentes échelles est très importante, qu'elle soit pour toutes les mobilisations. À la FSU, on est des unitaires. Le U de FSU, c'est unité. Et donc, le combat pour l'unité est permanent, en tant à l'échelle d'un département, d'une région, d'un pays, ou voire à l'échelle européenne. Et effectivement, la journée du 13 octobre, qui est une journée de mobilisation pour des revalorisations salariales et des retraites, est valable pour tous les pays de l'Union européenne, où malheureusement, les populations, partout, subissent une inflation galopante.
Après 4 mois passés et une bataille qu'on peut dire perdue contre la réforme des retraites, enfin quoi que vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, qu'est-ce que vous espérez là du niveau de participation?
Je pense que le niveau de participation, il sera certainement très élevé parce que, bon, vous l'avez dit, on a perdu une bataille, mais on est loin d'avoir perdu la guerre. Peut-être que sur le premier semestre 2023, c'était ce qu'il a manqué, c'était de lier la question salariale avec justement les retraites. Mais parce qu'on voit bien qu'en fait les deux sont liés et il y a un grave problème de pouvoir d'achat, mais dans toutes les corporations et face à une inflation qui dépasse les 10% en 2023, quand on a eu des augmentations de salaire cette année, elles étaient absolument pas à la hauteur, c'était bien souvent entre 1 ou 2%, donc complètement insuffisant. Donc sur cette thématique-là, en tout cas, je pense qu'on rassemblera largement.
Oui, l'unité sur la question est de mise, parce qu'effectivement, tous les dossiers sont étroitement liés. La bataille contre les retraites, on peut affirmer ou considérer qu'elle a été perdue parce qu'effectivement, le gouvernement et le président de la République ont été obligés de passer en force. Donc, ce n'est pas une bataille perdue. L'opinion publique est restée pendant toute la durée du combat très, très avec nous sur les revendications. Et aujourd'hui, et nous avons pu, pendant 6 mois, aborder des sujets de manière historique, ça n'avait jamais été fait depuis 1968, sur le financement des retraites, sur les salaires, comment ils doivent être composés, comment ils doivent évoluer. Bref, on a fait beaucoup de politique, et je pense que là, on a tous, unitairement et intersyndicalement, démontré la responsabilité des organisations syndicales à tous les échelons. Et donc, la question des salaires aujourd'hui et des montants de retraite est très prégnante partout, que l'on vive en Lozère ou ailleurs. Quand on voit que sur un an, les prix des denrées alimentaires ont connu une inflation de 14%, et que dans le même temps, par exemple, dans l'éducation nationale, les personnels les plus précaires ne sont à peine augmentés de 1,5%, ça veut dire que cette année, ils ont un peu plus de mal à boucler leur budget pour assurer leur repas tout au long du mois.
Est venu en témoigner d'ailleurs dernièrement le dernier rapport du Secours populaire qui fait part qu'un Français sur 5 vit à découvert, c'est un peu plus encore que les années précédentes. Avant de parler des sujets de revendication de cette rentrée, je propose qu'on revienne sur ces 6 mois de mobilisation pour les retraites. On a beaucoup parlé de retour en force des syndicats avec partout en France des niveaux de participation records. En Lozère, c'était entre 2300 et 3000 au 31 janvier. C'était la plus forte journée de mobilisation. Le dernier record, il me semble que c'était en 2010. C'était 850 personnes dans les rues en Lozère. Est-ce que ce retour en force, vous diriez que vous l'avez aussi senti vraiment là au niveau départemental des syndicats ?
Oui, effectivement. D'ailleurs, pendant cette période de janvier jusqu'à juin 2023, il y a eu d'ailleurs dans les médias nationaux un focus qui a été mis sur les villes moyennes, les petites villes. Et c'est vrai que ça a pris une résonance particulière ici parce que le coût de la ville a certainement augmenté plus qu'ailleurs, parce qu'il y a des charges de chauffage, il y a des frais de déplacement qui sont quand même très importants. Et pour le coup, la réforme des retraites arrivant là-dessus, ça a vraiment été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais moi, je voulais rebondir sur ce que disait mon camarade Hervé, là, il y a 2 minutes. Je pense que on a, pendant ce premier semestre, semé énormément de choses qu'on finira par récolter, parce qu'effectivement, ce dont se sont rendus compte beaucoup de salariés, c'est qu'on avait une argumentation solide. On pouvait démontrer que résoudre le problème des retraites, c'était simplement parler de rééquilibre et de répartition des richesses, parce que face à nous, finalement, les arguments, ils étaient purement idéologiques, vers un système un petit peu à l'américaine, où les plus forts s'en sortent toujours et les plus faibles tirent la langue. Donc je pense que c'est particulièrement important de le lire.
Une image réhabilitée des syndicats, vous irez dans ce sens aussi ?
Alors, l'image réhabilitée des syndicats, oui, parce qu'ils ont su prendre leurs responsabilités, tenir un discours clair, argumenté dans la durée, rester unitaire malgré des positions qui n'étaient pas tout le temps identiques, et c'est bien normal dans le monde dans lequel on vit. Donc oui, un retour de responsabilité. Mais après, dire que les syndicats sont revenus au centre du jeu, c'est faire quand même le discours de la propagande gouvernementale et politique. Parce que si, par exemple, depuis quelques années, les organisations syndicales, et en particulier dans la fonction publique, sont moins représentatives, c'est tout simplement parce que ce gouvernement et ce président de la République ont flingué tous les conseils qui permettaient de faire vivre le paritarisme et la défense au quotidien des personnels face à leur administration. Donc nous n'avions jamais quitté le centre du village. Bien au contraire, on était toujours très très présents dans les entreprises ou dans les services. Mais effectivement, pour l'opinion publique, c'est un retour en force parce que depuis très longtemps, eh bien, les politiques qui nous dirigent avaient décidé de nous mettre de côté et de flinguer le dialogue social.
Comme vous l'avez dit, cette image réhabilitée des syndicats, c'est notamment observé dans l'opinion. C'est allé jusqu'à une image positive de 70%. On a beaucoup mis ces chiffres en avant pendant la bataille contre la réforme des retraites. Mais cette réhabilitation des syndicats, elle s'est aussi observée, matérialisée dans le nombre d'adhésions qui ont augmenté aussi. Presque tous, je crois, des organisations syndicales ont dit qu'il y avait... la CGT a par exemple parlé de plus de 200% d'augmentation de ses adhésions, peut-être pas encore en effectivité réelle à la fin, mais au niveau national, c'est le chiffre qui a été dit. À la FSU, j'ai trouvé plus de 1500 pour l'éducation nationale, donc je ne sais pas si pareil, c'est bien ça, effectif ou pas. Et est-ce qu'au niveau départemental, du coup, ça s'observe aussi? Parce que là, c'est des chiffres nationaux.
Alors, pour ce qui est de la FSU, effectivement, la FSU ne syndique pas que dans l'éducation nationale. Hein, notre champ de syndicalisation, c'est l'ensemble de la fonction publique d'État et des différents ministères, hein, et la fonction publique territoriale. Et donc, partout, effectivement, nous avons vu, pendant le printemps et puis même pendant l'été, une hausse de la syndicalisation, preuve que voilà, le message porté est défendu, les revendications défendues, trouvaient de plus en plus d'écoute, hein, auprès des personnels qu'on est en capacité de représenter dans les instances. Donc oui, c'est un moment de resyndicalisation, et on espère que le chemin enclenché vers la resyndicalisation va se poursuivre jusqu'à la fin de cette année et puis même l'année prochaine, parce que on va de nouveau pouvoir toucher un grand nombre de collègues et nos réseaux militants vont pouvoir de nouveau travailler plus efficacement dans l'ensemble des services sur le département et puis plus globalement en France dans les différents ministères.
À la CGT, pareil, au niveau départemental, vous avez observé un nombre d'adhésions qui ont augmenté?
Oui, et qui est d'ailleurs sans commune mesure avec ce qu'on a observé les années précédentes. Alors, je vais vous donner des chiffres peut-être pas très précis, mais on est au moins, depuis le début de l'année, une cinquantaine d'adhésions sur le département de la Lozère. C'est sans précédent, et puis ce sont des adhésions... spontané, mais qui montre bien que c'est pas forcément un retour en force du syndicalisme, mais c'est un nouvel élan qui est en train de se passer. Et nous, ce qu'on a observé notamment, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui nous rejoignaient. Et par rapport à ça, c'est particulièrement intéressant parce que les pouvoirs successifs auxquels on a eu faire ces dernières années tendaient à vouloir nous ringardiser. Et preuve en est que nous sommes tout à fait modernes et en phase avec les aspects sociétaux, notamment en ce qui concerne les questions d'environnement et plus largement les aspects sociaux. Donc ça donne de l'espoir.
Il y a aussi, d'après les chiffres publiés par l'étude statistique du ministère du Travail, la DARES, donc qui faisait part du taux de syndicalisation entre les années 2013-2019. On n'a pas de chiffres après, donc ça fait part d'un taux de syndicalisation autour des 10%. C'est à peu près stable depuis les années 90. Mais il y a eu une augmentation observée dans des nouveaux secteurs qui jusqu'à présent étaient un peu... pas trop syndiqué finalement, notamment l'hôtellerie-restauration. Pour vous, ça dit quoi ça? C'est un nouveau rapport aussi, il y a eu des changements dans le milieu du travail bien sûr, mais du fait que de nouveaux secteurs tels que l'hôtellerie-restauration se syndiquent davantage, que les jeunes se retoquent aux portes des syndicats, qu'est-ce que ça dit?
Ça dit que dans une société, dans un secteur comme l'hôtellerie-restauration, il y a besoin de défense collective des revendications et des conditions de travail. Je pense qu'il y a quelque chose qui émerge. Je sais que seul, on peut pas s'en sortir. Et donc, effectivement, c'est, on va dire, relativement nouveau, même si ça a toujours existé, mais ça dénote aussi finalement la régression sociale qu'il y a eu dans le secteur du commerce plus largement, voilà, où les droits sont bafoués depuis des années et des années, où il n'y a pas assez de contrôle fait par les services de l'État. Je pense notamment à l'inspection du travail qui a vu ses moyens se réduire considérablement, alors en Lozère, mais de façon générale au niveau national. Donc ceci peut expliquer cela.
Eric, tu avais une question ?
Oui, est-ce que la période Covid, confinement, peut pas non plus expliquer par rapport justement à la restauration, l'hôtellerie ? J'ai l'impression que ça a beaucoup changé par rapport à, pour recruter tout ça. Est-ce que ça peut modifier aussi les mentalités des personnes ?
Moi, je pense qu'il est certain qu'on n'est pas sorti indemne de cet épisode et que si dans un premier temps on avait été dans une phase de sidération, ça a posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on fait dans la société, à quoi on sert, et puis surtout. Ce qui m'agace, c'est que pendant cette période-là, on a mis en avant les petits métiers. Subitement, la fonction publique redevenait utile, et on a vu combien ce qui était important, c'était ceux qui rendaient service à leurs concitoyens. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus pendant cette période-là.
Oui, la période du confinement a été un moment très très particulier dans le monde du travail. Et nous, à la FSU, qui nous intéressons au monde des fonctionnaires, ça a permis de faire prendre conscience dans la réalité du confinement de travers institutionnels du métier. L'isolement, qui pouvait être considéré peut-être comme une finitude et quelque chose de très intéressant, est vite apparu comme un moyen de faire disparaître la différence entre le temps professionnel et le temps privé sur son lieu de travail qui devenait son habitation. Ça a été quelque chose de très vite perçu. La précarité liée à des conditions salariales extrêmement faibles a fait prendre conscience que quand on travaille chez soi pour un employeur et que l'on finance soi-même son matériel de travail, l'électricité pour faire tourner son ordi et compagnie.
Le fameux télétravail.
Voilà, le fameux télétravail. C'est un constat que ça a un coût, et ça a un coût sévère pour les budgets des familles. Et puis, l'instant Covid, ça a été aussi un moment pour le gouvernement libéral, qui nous dirige malheureusement, d'enclencher la machine à casse des statuts. Et donc, aujourd'hui, si on a un retour du syndicalisme, et d'ailleurs en particulier, comme le dit le camarade de la CGT, des jeunes qui se syndiquent ou qui se re-syndiquent de manière importante, c'est que l'avenir sur les statuts de la fonction publique sont clairement pointés du doigt par un président de la République qui veut finir son dernier mandat en rendant la copie parfaite aux gens qui ont financé ces deux campagnes présidentielles, qui étaient de flinguer le statut de la fonction publique. Et donc, cette menace est aussi un révélateur d'un moment de confinement qui a permis de faire avancer dans des procédures de travail de la part des hiérarchies, eh bien, la casse ou la volonté de casse de certains statuts, de certaines protections statutaires.
La place des syndicats, à ce jour, ils sont beaucoup plus présents donc dans la fonction publique notamment. Je crois que c'est un des pourcentages d'adhésion les plus forts. Encore un peu aussi dans l'industrie, notamment, je pense aux cheminots, enfin, c'est en tout cas des secteurs dont on parle beaucoup quand il y a des mouvements syndicaux. Quels seraient les secteurs qui restent encore, où il manque encore peut-être une place des syndicats ? Dans les petites entreprises, dans...
Effectivement, et plus particulièrement en Lozère, on a du mal à être organisé dans les alors bien sûr dans les TPE où il n'y a pas d'instance représentative du personnel, mais plus largement dans les PME et je dirais dans les entreprises entre 10 et 50 salariés, on a du mal à avoir des représentants aux comités sociaux et économiques. Et puis on a affaire aussi, parce qu'il faut pas se le cacher, à une répression syndicale d'un certain patronat aux idées archaïques qui est quand même particulièrement importante. Donc tout ça essaye de dissuader les gens de s'engager. Et sur le département, c'est pas toujours facile d'afficher ses convictions aux yeux et au-dessus de tout le monde.
Je propose que tu nous parles, Béranger, toi-même de ton rapport au syndicat. Pardon, je te prends de court.
Oui, non, je vivais une écoute très attentive.
On t'écoute.
Alors, pour une première chronique, le hasard fait plutôt bien les choses car le sujet m'a vachement inspiré. J'avoue, j'ai toujours eu une certaine fascination pour les syndicalistes, les délégués du personnel et autres poils à gratter du patronat. Ben en fait, vous messieurs et les syndicalistes en général, ben vous avez tout simplement ce que je n'ai pas. L'art de revendiquer, du désaccord, de la dispute et l'art du conflit. Ben, si vous voulez, pour me situer, moi, mon rapport à la revendication, il est, comment dire, assez brouillon.
Dites-nous, monsieur, pourquoi vous êtes là ce matin ?
Eh bien voilà, nous revendiquons.
La dernière fois que j'ai revendiqué, autant que je me rappelle, c'était en 2003 au Buffalo Grill de Clermont-Ferrand, ben, pour un steak service saignant, alors que ben moi je le voulais à point. Vous voyez aussi, j'ai du mal à avoir un avis et à avoir un avis tranché. Je galère, j'y arrive pas. Ben je me suis risqué une fois à donner mon avis. Eh bien, on me l'a jamais rendu. J'ai eu beau déposer un avis de recherche, ben il court toujours. Je vais parler un peu plus de moi. Dans une vie antérieure, j'étais éducateur spécialisé. Et dans l'équipe d'éduc, il y avait Béné, dit Bénédicte. Ben, je l'adorais, Béné. Elle était dévouée corps et âme pour défendre le droit des salariés. Elle avait toujours une oreille attentive, animée par une énergie viscérale contre les inégalités. Béné dicte les droits du salarié. On avait souvent un gimmick, une petite phrase avec Béné. C'était, ben, elle est où Béné ? Vous n'avez pas vu Béné ? Le lundi, elle est où Béné ? Ben, en heure de délégation, le mardi. Ben, elle est où, Béné ? Ben, en heure de récup, de délégation. Et le mercredi, ben, elle est où, Béné ? Ben, elle est malade. Ah, ok. Je t'embrasse fort, Béné. En fait, au début de mes expériences professionnelles, je voyais affectueusement les délégués du personnel comme le capuchon d'un stylo. On passe notre temps à les chercher. Mais plus sérieusement, quand on y pense, ben, le capuchon d'un stylo, ça permet tout simplement... Ben, d'allonger la durée de vie d'un stylo. Sinon, l'encre sèche et une ou un salarié séché, ben, il a mauvaise mine. Très mauvaise mine. Voire même un salaire, dès lors que son quotidien professionnel devient suffocant. Et puis, j'ai changé radicalement mon regard. J'ai changé ma focale, j'ai corrigé mon strabisme enfermant, j'ai accommodé mes représentations rassurantes. Et savez-vous comment j'ai fait ? C'est très simple. Je suis allé voir un ophtalmo politique. Il m'a conseillé des lunettes à la correction progressive qui accentuent la visibilité des rapports de domination, qui permettent de voir et de nommer les oppressions et surtout qui mettent en relief les rapports de force. Bon, en fait, je me suis politisé, je crois, tout simplement. Enfin non, pas tout à fait, je suis encore en apprentissage. J'étais tenté de dire rééducation, comme chez l'ophtalmo, mais je tiens trop au mot éducation pour l'oppressé. Ben, finalement, c'est bien de cela qu'il s'agit de politique, pour ne pas s'assagir dans ses luttes. Car un syndicaliste qui s'assagit, qui devient sage dans son combat, c'est comme si par exemple, ben, je sais pas, Sébastien Chabal devenait vegan. Un truc impensable. Alors oui, la politique est un gros mot car il prend beaucoup de place dans l'espace médiatique. Clairement, il est mis à toutes les sauces. On est d'accord. Mais mon ophtalmo politique, il a un copain qui lui est cuisinier politique. Et grâce à sa recette, le mot politique, ben maintenant je le cuisine à ma sauce. Donc, avant mon nouveau parcours de soins politiques, d'ailleurs, en parlant de soins, je vais passer une annonce et je vais faire une pause dans ma chronique. Je suis toujours à la recherche d'un médecin traitant, Amande, et j'aimerais bien en trouver un avant ma retraite. Bon, ce qui est inquiétant, c'est que la retraite s'allonge, et j'espère que ce sera la même chose sur mon espérance de vie. Je continue sur la pause, mais je n'en fais pas une. Je vais m'attarder sur ce mot. Si je mets mes lunettes politiques, j'obtiens congé payé, RTT, récup, temps libre, chômage, congé maternité, paternité, parental et j'en oublie. Et ça, c'est le fruit de luttes syndicales et politiques. Car pour rappel, ben, l'étymologie du mot travail, c'est tripalium quand même. C'est le mot souffrance, tourmente. Et je rappelle que c'était même un objet de torture. Donc, merci à celles et ceux qui n'ont pas fait de rature, d'avoir apposé sans tort leur signature et que le procès des inégalités dure. Donc, je reviens à mon parcours de soins et je reprends donc mes lunettes. Donc, avant mon parcours de soins politiques, mon rapport au syndicat était comme celui que j'ai à la religion. Ben, je fais appel à Dieu que dans les causes désespérées, voire perdues. Mais grâce à mon ophtalmo et mon cuisinier politique, comme on disait avant, les routiers sont sympas, je peux dire avec force aujourd'hui que les syndicalistes sont plus que nécessaires, ils sont essentiels.
Merci, voilà une belle ode au syndicat. Merci Béranger.
Merci, oui, merci. Effectivement.
On poursuit notre discussion. Donc, comme on le disait juste avant cette belle chronique, l'image des syndicats a été redorée hein, ces derniers mois dans la société. D'après un sondage ELAB donc, qui est sorti il y a un petit temps, c'était en avril, la moitié des Français, donc c'était 52%, disaient qu'ils voyaient les syndicats comme des éléments de dialogue et non plus de blocage, comme c'était avant. Ils répondaient plutôt l'inverse. Quoi. Avant, la majorité, c'était les syndicats. Pour nous, c'est des éléments de blocage. Maintenant, ça s'est inversé. Cette convergence syndicale y a contribué, j'imagine. En tout cas, l'union des syndicats a fait que les Français se sont dit le mouvement qui est enclenché, ça nous permet peut-être d'avoir des avancées sociales. Et cette union ne s'était plus vue depuis les années 2010. C'était d'ailleurs aussi un combat contre les retraites à l'époque où Sarkozy était président. En quoi cette question des retraites a permis ce rassemblement-là des syndicats plus que tout autre combat ? Pourquoi les retraites, ça a permis ça ?
C'est ce combat des retraites, il a permis l'union syndicale parce que face à un projet qui était entretenu et supporté par une infime minorité de la population et une infime minorité politique qui n'a d'ailleurs pas tenté le coup de présenter le projet au Parlement, ça posait une question de société fondamentale. Est-ce que la vie doit être entièrement dédiée tant qu'on est en bonne santé, à travailler? C'est une vraie question de fond. Certains qui travaillent peu ou font travailler les autres considèrent que oui, on peut travailler jusqu'à ses derniers jours et finir comme les artistes qui ont choisi les planches pour gagner leur vie et qui s'y complaisent de mourir sur scène. Mais c'est une minorité qui pense ça. L'immense majorité de la population, à cause de la dégradation continuelle des conditions de travail depuis 20 ans, aujourd'hui dit, à un moment donné, il faut arrêter. Et 64 ans, c'est trop tard. Donc, le constat qui a été fait, malgré des divergences politiques ou des divergences syndicales sur le financement des retraites, les modalités de financement, a fait qu'on ne pouvait qu'être d'accord, puisque l'immense majorité de la population le portait. Et donc, les syndicats... Et les représentants syndicaux, pour répondre un petit peu, ne décident jamais seuls de ce qui doit être mené comme action ou comme revendication. Ce sont des collectifs de décision qui existent dans chaque organisation syndicale. Des intersyndicales se réunissent régulièrement sur certains dossiers pour voir les combats qui peuvent être menés et comment les mener. Et tout ceci est profondément travaillé en amont avant d'annoncer une date de mobilisation sur tel ou tel sujet. Et ce qui a été quand même, je crois qu'il faut bien le reconnaître, historique sur un département comme le nôtre, c'est d'avoir tenu dans la durée de manière unitaire intersyndicale et d'avoir amené autant de monde dans la rue pendant tout ce printemps. Chose qui n'avait jamais été faite sur ce département.
Éric.
Est-ce que vous n'avez pas peur, pour le coup, que là, la décision, elle n'a pas changé ? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des personnes qui se radicalisent, justement, entre guillemets, parce que là, on voit que, justement, ça a été des démarches pacifiques, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas eu de débordement, il y a eu beaucoup de monde, et ça n'a pas du tout changé l'idée du gouvernement. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur que soit les gens se redésintéressent tout de suite, ou veuillent des actions beaucoup plus violentes, en fait ?
Ça, bien sûr, c'est le risque. Parce que finalement, en restant sur une position dogmatique, le gouvernement n'a fait que créer de la désespérance. Et quand on est désespéré, on perd un peu le sens de la raison et on peut en arriver à accomplir des actes violents. Alors c'est sûr qu'il y a un risque. Et puis surtout, il y a eu un tel déni démocratique que ça a constitué une défiance supplémentaire vis-à-vis du monde de l'appareil politique. Et ça, c'est, effectivement, c'est extrêmement dangereux parce que ça fait le lit des idées les plus nauséabondes. Je pense notamment aux idées portées par l'extrême droite. Donc effectivement, c'est très dangereux. Mais pour revenir à cette unité syndicale, qui s'est ancré dans la durée. Moi, je pense qu'à un moment donné, les organisations syndicales, elles ont toujours été responsables, mais là, elles ont réellement fait preuve d'intelligence. Et moi, depuis le début du mois de janvier, j'ai croisé énormément de primo-manifestants, de personnes dont j'aurais pas imaginé un jour les voir dans les rues. Et quand ils venaient me voir, ils me disaient, mais tu sais, Guillaume, si on est là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes tous ensemble. Parce que on va pouvoir donner un élan supplémentaire. Et cet élan, il n'est pas prêt de s'arrêter. On a tenu notre assemblée générale la semaine dernière à l'Union départementale CGT. Et dans le discours de la plupart des camarades, c'était, il n'y avait pas de la résignation, mais il y avait plutôt de la fierté d'avoir amené des idées politique, d'avoir pu argumenter et d'avoir animé les manifestations, d'avoir su mener des conflits. Et je pense que c'est intéressant pour la suite.
Sur cette question des risques de radicalité, bien sûr, ils existent. Après, la radicalité peut être effectivement utilisée à des fins négatives qui desservent les intérêts des personnes ou des personnels que l'on souhaite défendre. Et c'est en cela qu'il faut faire très attention aux modalités de radicalité. Mais la radicalité a aussi parfois une bonne utilité. Rappelons-nous les faucheurs de champs OGM, par exemple, voilà, qui ont permis de faire avancer les connaissances et éveiller l'opinion publique à un vrai problème de santé publique. Donc on peut craindre la radicalité, et si la radicalité devient complètement marginale, c'est peut effectivement devenir très dangereux. Mais ensuite, le travail des organisations syndicales ne s'est pas arrêté au moment où le président de la République nuitamment a publié les décrets sur la retraite. Le travail continue. Tout ce que l'on a défendu unitairement, chaque organisation syndicale, aujourd'hui travaille avec... dans le monde politique, pour faire valoir ses arguments, et que les majorités parlementaires sont faites pour changer, et qu'un jour, on arrive peut-être enfin à avoir un prochain gouvernement qui, pour la première fois, puisque ça n'a pas été fait depuis que toutes les contre-réformes sur les retraites ont été mises en place depuis les années 2000, revienne sur cette réforme-là et rétablisse ce que l'on souhaite. Donc, le travail maintenant, les syndicats ont fait leur boulot dans leur champ syndical. Ils ont démontré que l'unité pouvait permettre de faire avancer des idées. Maintenant, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités et que ceux qui ambitionnent d'un jour de gouverner ce pays disent quel projet ils ont pour les retraites. Et les organisations syndicales seront là pour amener tous les arguments qu'il faut pour défendre ce que chacune défend. Et là, pour une fois, on était quand même à peu près raccord tous sur ce qu'on défendait.
Et est-ce qu'elle n'est pas un peu là aussi la place des syndicats qu'ils ont à jouer s'ils veulent garder cet élan qui a été lancé via la bataille contre la réforme des retraites, du fait d'avoir de porter une voix unitaire vis-à-vis d'une opposition contre un gouvernement qui est un peu disloqué en ce moment? Est-ce que ça se joue pas aussi un peu dans le politique finalement? Et du coup, j'en viens à poser une autre question, parce que politique, ça peut être un peu ambigu. Où est la frontière, en fait, entre syndicalisme politique, sociétal, tous ces enjeux? Comment vous l'entendez, vous?
On peut difficilement dissocier politique et syndicalisme. Là où il faut être très clair, c'est qu'il existe la charte d'Amiens, chaque syndicat est indépendant d'un parti politique. Mais argumenter, avoir des revendications, c'est faire de la politique au sens premier du terme. Les chefs d'entreprise, eux aussi font de la politique. Voilà. J'ai une anecdote à ce sujet, où récemment j'ai assisté à l'Observatoire du dialogue social en Lozère. Et un responsable des ressources humaines d'une grosse structure du département, que je ne vais pas citer, disait que globalement, les CSE fonctionnaient bien quand ils étaient petits, et un peu moins bien quand ils étaient d'une grande importance, parce que les représentants syndicaux faisaient de la politique, justement. Donc je lui ai quand même posé la question de savoir si lui n'en faisait pas de la politique. Il n'a pas pu nier le fait qu'il avait des idées différentes de ce que défendaient ses salariés. Il y a un affrontement capital-travail qui est de plus en plus prégnant, parce que finalement la masse salariale dans qui est considérée à tort comme une charge est au contraire une véritable richesse pour l'entreprise, et ça il serait temps que la plupart des patrons le reconnaissent.
Sur la question de syndicats et politique, bon, Guillaume l'a très bien dit, il existe une charte d'Amiens qui est datée, qui à une époque avait l'intérêt d'être publiée et qui aujourd'hui reste une règle pour l'ensemble des syndicats, effectivement, qui fait très clairement la différence entre le fonctionnement d'un syndicat et le fonctionnement d'un parti politique. Mais après, il ne faut pas jeter le mot politique à la poubelle.
C'est ça. C'est peut-être là, en voilà, fait, que c'est là-dessus que je voulais vous emmener.
Le terme de politique, quand on parle des retraites et qu'on parle de l'évolution d'un mode de fonctionnement dans la société, on fait du politique. On s'intéresse à l'ensemble des habitants d'un territoire. Quand nous, à la FSU, on porte un mandat de l'inclusion de tous les élèves en situation de handicap dans l'école, collège, lycée et université, c'est faire de la politique. Voilà. Donc, toutes les organisations syndicales, quand elles s'emparent de dossiers, font du politique. Et heureusement, il ne faut pas laisser le politique à des gens qui considèrent, parce qu'ils sont élus, qu'ils seraient les seuls professionnels capables de faire de la politique. Ça serait gravissime et contraire à tout l'idéal démocratique de notre pays.
On est bien obligé de toute façon de s'intéresser au monde qui nous entoure. Nous, dans nos statuts, effectivement, on porte la transformation sociale et sociétale et la lutte contre le capitalisme. J'en parlais tout à l'heure, on ne peut pas faire fi des enjeux environnementaux. C'est étroitement lié avec les questions sociales. Donc oui, moi je reconnais faire de la politique à ce titre-là.
Est-ce qu'on peut imaginer du coup à l'avenir qu'il y ait finalement un peu deux types de combats à mener pour les syndicats, à la fois au sein des entreprises ou voilà, que ce soit public ou privé, et aussi du coup au niveau vraiment sociétal, et porter dans ce cas-là des combats un peu communs, notamment sur le plan environnemental. Il y a aussi l'égalité homme-femme, ça fait partie des revendications pour le 13 octobre prochain. Tous ces combats un peu plus larges, est-ce qu'on peut imaginer comme ça à l'avenir que ça se poursuive comme ça, l'union des syndicats?
Mais ces combats-là, à la fois sur la défense, sur les lieux de travail, des conditions de travail et des personnels, mais aussi porter des projets de changement de société, ça a tout le temps été, le travail syndical. Ce n'est pas une nouveauté depuis le
Est-ce
combat sur la réforme
oublié,
des retraites. Alors, le citoyen moyen, éloigné peut-être du monde du travail, éloigné des organisations syndicales et du débat entre organisations syndicales sur des projets de société, a pu, à juste titre, considérer que c'était quelque chose que les syndicats ne faisaient plus. Mais sauf que il vous faut simplement lire chaque fois qu'il y a un congrès national ou départemental d'une organisation syndicale, lire les mandats du congrès, c'est-à-dire ce à quoi s'engage l'organisation syndicale à mener comme combat, comme projet, eh bien, pendant la durée du mandat. Et vous verrez qu'il y a tout le temps... Il y a tout le temps des projets, et c'est comme ça que l'on arrive à faire évoluer, en particulier dans la fonction publique d'État, des postures ministérielles, et que l'on peut enclencher des réformes qui, parfois, sont positives.
Mais qu'est-ce qui fait que ces dernières années, les syndicats étaient quand même perçus comme en opposition perpétuelle finalement, et qu'ils défendaient aussi leur petit giron au sein des organisations qu'ils défendaient. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais
oui, je vois à peu près ce que vous voulez en venir. Mais ça, c'est des une stratégie adverse bien orchestrée, c'est-à-dire, moi j'appelle ça le diviser pour mieux régner. Effectivement, quand on éparpille les différents représentants du personnel, c'est plus difficile à faire valoir les véritables revendications. Et puis, on a... souvent, quand on parle des syndicats, et en particulier de la CGT, c'est dans les médias nationaux notamment, c'est quand il y a des pneus brûlés qui crament devant une usine, ou parce qu'il y a un mouvement de grève très dur, ou il y a l'annonce de milliers de suppressions d'emplois. Donc forcément, ça renvoie une image pas très réjouissante de notre organisation. Et ce que les gens, par contre, ne voient pas, c'est qu'au quotidien, on accomplit de réelles missions de service public, d'aide juridique à des salariés, parfois sociale. Enfin, c'est un travail de longue haleine, et on ne peut pas nous résumer qu'à de la contestation. La CGT, comme d'autres organisations syndicales, on est avant tout force de proposition. Et contrairement aux idées reçues, qui voudraient nous résoudre à cette ligne contestataire, la CGT, elle signe beaucoup d'accords. Elle les signe seulement quand ça convient et quand ça va dans l'intérêt des salariés.
Sur cette question, je vais vous raconter une anecdote. Ça fait maintenant plus d'une décennie que, quand on allume la télé, par exemple, qu'on lit les médias nationaux, il apparaîtrait deux camps syndicaux irréconciliables.
CFDT-CGT, c'est ça ?
Il y aurait d'un côté, je ne vais pas citer le nom des organisations, chacune s'y remarque, mais il y aurait d'un côté les réformistes responsables, qui donc seraient en capacité de s'entendre avec un gouvernement pour signer des réformes dans le monde du travail. Et puis, il y aurait des syndicats de transformation sociale plus révolutionnaires qui seraient totalement irresponsables parce qu'ils remettraient en cause trop régulièrement le système installé. Cette division en deux du camp syndical ou du monde syndical, c'est une pure invention politique des gens qui nous gouvernent, traduite par les médias. Le rassemblement unitaire sur la question des retraites a prouvé que, même si on n'est pas d'accord sur tout, on a plein de points communs et on peut se battre sur un même projet, pour le déconstruire. Donc, pour finir, je crois qu'il faut que l'on fasse très attention, parce que vous comme nous, vous dans votre métier et nous dans le nôtre, on peut se laisser emporter par ce contexte ambiant en disant « Oh ben tiens, j'ai lu une page du congrès de la FSU ». Bon, ils se revendiquent de transformation sociale, hein. Ça sera donc des révolutionnaires irresponsables.
Nous aussi, ils font la révolution au-dessus chez nous.
Non, mais c'est très juste ce que dit Hervé, parce que finalement, le pouvoir en place veut mettre le doigt sur des différences entre organisations. Alors, on va pas se cacher. On est parfois assez éloigné sur certaines questions, mais globalement, on s'entend aussi sur beaucoup de choses. Et cette vision manichéenne qui consisterait à classer une organisation dans le bon camp ou dans le mauvais camp, ça n'a pas de sens. Le pluralisme, il amène aussi une richesse, une diversité dont notre République a bien besoin en ce moment.
A besoin. Notamment dans un contexte où la confiance envers les politiques est un peu en berne. Je propose qu'on passe à ta chronique, Eric, on t'écoute, toi qui as fait donc une découverte incroyable.
Et oui, je viens de faire une grande découverte, comme quoi il n'est jamais trop tard. Je suis HPI, au potentiel intellectuel.
Encore un.
Je vois dubitatif autour de la table, et pourtant j'ai passé des auto-tests, et les résultats sont sans équivoque aucune, j'ai coché toutes les cases. Vous avez déjà passé des tests ? Et vous avez réussi à chaque fois à cocher toutes les cases du test ? Donc bon, voilà, déjà, ça montre que vous n'êtes certainement pas HPI. Bon, déjà, j'aurais pu m'en douter depuis un moment, parce que déjà, tout à l'heure, rien qu'en arrivant, Béranger, rien qu'en me voyant, il m'a dit « Mais comment tu fais pour être en arborescence comme ça ?» je sais pas, l'arborescence, chez moi, c'est inné. Et devinez quoi ? Le premier symptôme de HPI, c'est justement l'arborescence. Mais être HP, ça veut aussi dire qu'on pense tout le temps. Rien que ce matin, j'ai pensé qu'on ait une émission aujourd'hui. Donc j'ai pensé écrire une chronique et l'imprimer, même si avec ma mémoire, j'aurais pu la retenir directement. Et maintenant, il faut que je pense à lire ma chronique pendant que je parle dans le micro. Sinon, ça veut dire que je parle dans le micro pour ne rien dire. Et ça, il n'y a que les politiques pour réussir une telle prouesse. Et on sait tous que les politiques ne sont pas HPI. Alors oui, je sais. Grande déception parmi nos plus fidèles auditeurs, j'avais fait illusion jusqu'à présent, mais mes chroniques sont écrites et travaillées. Ce n'est pas de l'impro que je fais suivant l'inspiration des invités. Parce que là, en plus, je ne serai pas toujours aidé. Je ne parle pas pour vous, les syndicats. Il y a toujours un truc drôle qu'on peut raconter sur vous. Même si depuis la retraite de Martinez, c'est moins fun. Mais rien que la dernière fois, l'émission, c'était sur les migrants. Va faire des blagues sur les migrants, toi. Bon, même toi, Clara, après chaque émission, tu me le dis.
Alors oui, vraiment, depuis tout ce temps, je sais pas comment tu fais, mais ça ne se voit toujours pas que tu les prépares tes chroniques.
Ouais, sympa Clara. Bon, tenez, une autre caractéristique. Vous comprenez et vous apprenez aussi vite qu'un cheval au galop dans le vent des grandes causes de Sauveterre et du Méjean. Et en plus, je suis poète. Et pour vous montrer que j'apprends vite, je pourrais vous répéter de tête n'importe quel poème appris à l'école primaire. Mais pour faire plus simple, on va essayer avec une phrase que Clara va lire. Et je pourrais vous la réciter sans erreur juste après. Allez Clara, c'est à toi.
Eric est certainement le chroniqueur le plus doué et le plus drôle autour de cette table, après Béranger, bien sûr.
Oh, mais c'est trop gentil, ça ! Mais tu le sais, je suis bien trop modeste pour répéter cette phrase. Et je ne suis pas comme un chef syndicaliste à parler de moi à la troisième personne. Non. Oh punaise, ça me fait penser. Faudrait pas non plus que je sois hypersensible. Ce serait le bouquet. En plus, ce n'est pas impossible. J'ai failli verser une larme en entendant ce que tu viens de dire, Clara.
Attention.
Une autre caractéristique HP, vous vous ennuyez rapidement. Ben, rien que là, en ce moment. Non, pas d'être avec vous. Mais surtout de devoir me relire, ça m'ennuie. Il y a aussi la curiosité. Et ça aussi, tout le monde le sait que je m'intéresse à beaucoup de choses. Comme... Mais si, et puis je pose beaucoup de questions aussi sur... Ouais, c'est bien de la curiosité, ça. Non, allez, vraiment, en aucun cas, je me moque de ceux qui sont vraiment HPI. Mais en ce début de rentrée, si on écoute les parents à la réunion parents-prof, à l'école ou au collège, au moins la moitié des mômes n'ont rien à faire dans cette classe trop ordinaire et pas adaptée aux aptitudes ô combien exceptionnelles de leur gamin. En vrai, une grande partie des HPI, ils habitent à Mende, où c'est toute la nouvelle génération élevée aux écrans qui va tout dépasser. Bientôt, les super-héros avec des super-pouvoirs intellectuels, ce ne sera plus de la fiction. Par contre, si tu as le malheur de leur demander sur leur môme, ils ont passé des tests. Ou des entretiens avec des spécialistes, ils te répondront « Non, mais c'est pas fiable les tests ». Après, il y a au moins une chose qui est rassurante là-dedans, c'est qu'à les écouter, normalement, si tout se passe bien, c'est une de ces petites têtes blondes qui va nous sauver de toutes les catastrophes écologiques, économiques et sociales actuelles ou à venir. Notre sauveuse ou sauveur sera Mandois HPI ou ne sera pas.
Eh ben, on y croit, nous. Enfin, moi, j'y crois, en tout cas. Est-ce que vous avez envie d'y croire à ça aussi ?
Il faut toujours croire en quelque chose.
Surtout en l'avenir. Il nous reste un petit quart d'heure avant la fin de cette émission. Je propose qu'on parle un peu des sujets de cette rentrée, là, au niveau départemental, pour vos syndicats respectifs, donc CGT, FSU. On commence peut-être avec vous, Guillaume Martin, puisque vous devez pas trop tarder à partir, je crois. Donc, on vous a déjà un peu entendu à notre micro, dans notre journal notamment, mais est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur les sujets qui ont retenu votre attention, là, en cette rentrée sociale ?
Ouais, alors... Le terme de rentrée sociale, il n'est pas tout à fait juste, parce que, effectivement, même si on a levé un petit peu le pied pendant la période de juillet-août, on est quand même resté très actif, et on a deux dossiers particulièrement qui nous inquiètent au premier point. Le premier, c'est la situation de la ribambelle à Florac, centre médico-psychologique pour enfants et adolescents, auquel la direction de l'hôpital François Tosquelles veut porter un coup rude en diminuant la prise en charge des enfants et des adolescents sur cette structure, et c'est ce qui met à mal le service public de la santé psychiatrique sur notre département. Ce centre, il est situé à Florac, et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, certains patients font plus d'une heure de route pour venir jusqu'à Florac, et pour certains d'entre eux, ça les éloignera encore plus des soins. Donc c'est particulièrement inquiétant, mais c'est à l'image de tout ce qui se passe justement dans la santé de façon générale, mais plus particulièrement dans le milieu de la psychiatrie, où les moyens en termes de personnel, au fil des années, se sont considérablement réduits, et ça pose vraiment une question sociétale de la prise en charge des différences. Donc nous, on tire la sonnette d'alarme là-dessus, à la fois pour respecter et améliorer les conditions de travail des salariés, mais aussi soigner et bien soigner les usagers. Le deuxième sujet qui nous inquiète, il est également dans le secteur de la santé, mais là pour le coup sur le nord du département, ça concerne la situation de l'EHPAD de Luc, qui est rattaché à l'hôpital de Langogne, et dont la direction aurait annoncé sa fermeture d'ici la fin de l'année. Alors c'est là aussi très inquiétant, parce que cet EHPAD, bon, certes, si sur 33 lits, il n'est plus occupé que par 13 résidents, pour autant, l'hôpital de Langogne ne serait pas en capacité de pouvoir les recevoir dans l'immédiat. Et ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est qu'il y a maintenant 3 ou 4 ans, sur le même bassin de vie à Auroux, on a déjà assisté à la fermeture d'un EHPAD public. Donc ça pose la question de l'aménagement du territoire et de l'offre de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Donc on risque de se retrouver avec des files d'attente sur ce bassin de vie. Et donc là aussi, on tire la sonnette d'alarme, parce que la prise en charge de ces personnes-là ne pourra pas bien se réaliser. Par exemple, sur Langogne, il s'agirait d'une infirmière diplômée d'État pour 100 résidents, ce qui est purement scandaleux. Donc on tire vraiment la sonnette d'alarme. On se battra en tout cas pour que les choses bougent, en lien à la fois avec les usagers sur ce secteur, mais également avec les élus locaux qui ont l'air aussi préoccupés par cette situation.
On peut également peut-être parler, avant que vous vous en alliez, de la prochaine appel à mobilisation qui concerne vos deux syndicats et d'autres. C'est le 23 septembre. Donc c'est un appel à mobilisation lancé par plusieurs ONG, les partis de gauche aussi, dont LFI, PCF. C'est contre les violences policières, répression policière qui ont beaucoup marqué cet été avec suite à la mort du jeune Naël, mais aussi qui renvoie aux répressions policières qui se sont déroulées pendant les manifestations les 6 mois derniers. Et c'est aussi, notamment à la CGT, il y a eu des cas, est-ce que vous pourriez en dire 2-3 mots, de criminalisation, comme c'est le mot qui a été employé, de ces revendications syndicales, en fait, que ça a été un peu...
Oui, alors, plus largement, mais au-delà des violences policières, dont en plus, en Lozère, on n'a pas coutume à avoir affaire, mais plus largement, c'est les atteintes qui sont portées à la démocratie. Et la démocratie syndicale particulièrement. C'est vrai que ces dernières semaines, il y a eu une attaque frontale tous azimuts contre notre organisation en particulier. On a à peu près 1000 camarades au niveau national qui ont eu des poursuites judiciaires, bien souvent liées au contexte de lutte contre la réforme des retraites. C'est le cas par exemple de Sébastien Ménesplier, membre du bureau confédéral de la CGT et également secrétaire de la Fédération Mine Énergie, qui a été traduit devant a été convoqué à la gendarmerie de Montmorency de la semaine dernière pour s'expliquer sur les coupures de courant qu'aurait subi un certain ministre du SOPT à Annonay, donc durant le premier semestre. Donc c'est vraiment une attaque frontale sans précédent où on veut nous museler aussi dans le cadre de la bataille contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres, où notre camarade secrétaire de l'Union départementale a comparu aussi devant le tribunal avec sept autres responsables d'organisation pour avoir lutté dans ce contexte-là. On nous accuse d'être des radicaux, mais la radicalité, actuellement, elle se fait vraiment sentir du côté des gouvernants. Et nous, en tout cas, on n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds, parce qu'on est là pour l'intérêt général et non pour des intérêts particuliers. Et c'est pas comme ça qu'ils nous feront taire.
Sur ce sujet, Hervé Fumel.
Oui, sur le 23... la FSU bien sûr participera donc au rassemblement qui est prévu à 11h donc place Urbain 5 devant la préfecture et mobilisera les personnels pour y participer pour plusieurs raisons. Là encore une fois on touche à quel avenir pour la jeunesse en France. Aujourd'hui, on le sait, on a entre 13 et 14% des jeunes qui sont en dehors du système scolaire, en dehors de l'emploi, et qui sont complètement désocialisés. Le gouvernement et le président de la République veulent faire croire que ce sont ces jeunes-là, d'ailleurs qu'ils accusent à tort souvent d'être issus de familles monoparentales, qui seraient la cause de tous les débordements qu'il y a eu dans des villes françaises à la fin du printemps, au début de l'été. Mais je pense que là, il faut qu'on remette les choses au clair. Cette journée nationale d'action, certes, la police ne peut pas faire ce qu'elle a fait à certains moments. Alors effectivement, comme le disait le camarade de la CGT, en Lozère, nous arrivons à avoir des pratiques policières tout à fait acceptables. Et d'ailleurs, très régulièrement, au moment du mouvement des retraites, nous avons remercié les forces de police qui avaient encadré parfaitement les manifestations et qui avaient fait que tout se passe très bien. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, aujourd'hui considéré, par exemple, en termes éducatifs, que pour cette jeunesse, eh bien, qui a d'ailleurs porté, en même temps que nous manifestions, nous, les actifs ou les retraités, contre la réforme des retraites, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient dans les manifs aussi et qui défendaient des idées politiques. Leur promettre comme avenir, en termes éducatifs, le port de l'uniforme pour tous et le service national universel pour que l'armée les remette dans un droit chemin qu'ils auraient perdu, ça, c'est un vrai choix de société. Et cette journée du 23 a aussi cette fonction-là de dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la jeunesse, même si quelques réactionnaires sont aujourd'hui à la tête de ce pays et de ce gouvernement. Donc c'est important pour nous à la FSU de faire passer le message et de dire qu'on sera présent parce qu'on a plein de choses à faire valoir pour la jeunesse, autre que ceux qui est prévu pour l'instant ou qui sont dans les cartons de ce gouvernement.
Il nous reste 6 petites minutes pour parler, on fait la transition avec la jeunesse, éducation nationale que vous représentez en grosse majorité à la FSU. Pour parler vraiment au niveau départemental, vous avez vendredi dernier participé au comité social d'administration, c'est un nom compliqué, je le dis en entier, d'administration spéciale départementale de la Lozère. Donc c'est des réunions en fait entre représentants de l'académie, hein, c'est ça, nationale. Il y a des sujets, beaucoup de sujets qui ont été mis sur la table. On peut retrouver, vous avez fait un espèce de compte-rendu de tout ça en détail. On peut peut-être parler d'une autre mobilisation qui va arriver dans pas très longtemps. C'est en tout début octobre, le mardi 3 octobre, et ça concerne les AESH, donc ces personnes qui aident les jeunes enfants en situation de handicap. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux, trois mots?
Alors oui, la journée du 3 octobre sera une journée spécifique d'action pour l'inclusion scolaire et la mobilisation des personnels et des AESH qui ont pour fonction d'accompagner les élèves en situation de handicap dans toute leur scolarité, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Ces personnels-là sont parmi les plus précaires. Ils ont des contrats à durée déterminée. Certains arrivent au bout de quelques années à être CDIsés, mais ils commencent au moins par 6 ans de contrat à durée déterminée. Et la moyenne mensuelle de leur paye, c'est 800 euros par mois. C'est avec ça que ces gouvernements considèrent que ces personnels totalement indispensables pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions les élèves en situation de handicap dans les classes sont gérés et considèrent qu'ils ne feront pas plus pour eux en termes de revalorisation salariale. Donc ça fait aussi le lien avec le 13. Mais ce gouvernement a aussi un autre projet. Et vous allez voir la chose. Le projet du gouvernement, c'est de faire que les personnels AESH voient leur mission doublée des personnels de vie scolaire, des AED. Et comme ceci, ils pourront aussi assurer des missions de surveillance scolaire, donc la cour de l'école, le repas de midi à la cantine, là où il y a des internats, la surveillance des internats. Voilà. Et donc, plutôt que de revaloriser les salaires, eh bien, on considère qu'on va pouvoir mixer toutes les missions, leur faire perdre une part de leur spécificité, l'accompagnement des élèves en situation de handicap, pour leur faire faire à peu près tout et n'importe quoi dans les écoles et les établissements scolaires. C'est un projet, encore une fois, de société, ça, parce que ça en dit long sur la volonté de ce gouvernement de mieux intégrer les élèves en situation de handicap dans la scolarité, alors que c'est une demande forte de la société. Voilà. Donc là, il y a cette journée spécifique du 3, nous allons organiser une intersyndicale et nous allons essayer d'arrêter assez rapidement une modalité d'action. Et dès que l'intersyndicale se sera tenue, on vous tiendra informé de la modalité d'action lozérienne de ce 3 octobre.
du prochain rendez-vous. Dernière question que je voulais avoir, puisqu'il y a eu une étude de la FSU, hein, je crois, qui a été publiée, qui fait mention qu'en moyenne en France, hein, on parle qu'il y a dans les classes moins... alors attendez, il faut que je dise pas de bêtises. En moyenne, un prof dans près de la moitié des établissements... Enfin, il n'y a pas suffisamment d'élèves par classe, en fait. Et ça, je tourne absolument mal ma phrase. Excusez-moi, mais est-ce que ça s'observe en Lozère, ça se manque de profs ou pas, ou les postes ont été renouvelés à hauteur des effectifs ?
Alors, nous n'avons, pourtant nous sommes en démocratie, nous sommes en République, nous n'avons jamais autant vécu un temps de propagande intensive gouvernementale que de ces jours-ci. Mmh. Sur cette question, engagement du président de la République, à la rentrée, il y aura un professeur dans chaque classe face aux élèves. Résultat des courses à la rentrée, échec flagrant et patent, en Lozère comme ailleurs. Alors, les mesures qui ont été faites dans le second degré, collège et lycée. Un des syndicats de la FSU a effectivement, grâce à un sondage mené dans tous les départements, pu identifier que dans 48% des établissements scolaires, eh bien, il manquait des professeurs pour qu'ils soient là, à l'instant T, devant les classes. Dans le même temps, la rectrice de l'Académie de Montpellier a osé, hier, affirmer que c'était pas 48%, mais 2%. Ouais. Alors, ça semble très étonnant. Ça semble vraiment très, très étonnant d'entendre cette propagande complètement erronée, si ce n'est pour faire plaisir au président de la République. Et en tant que rectrice d'académie, on peut comprendre que ce soit son job. Mais ce n'est pas la réalité. Ici, en Lozère, il manque des professeurs dans plein d'établissements. Allez au lycée professionnel Peytavin à Mende. Vous verrez le nombre de professeurs qui manquent dans plein de disciplines. Allez au collège Bourillon, à la SECPA du collège Bourillon, il manque encore des personnels. Allez dans des collèges, Saint-Chély-d'Apcher par exemple, il manque des personnels. Allez au Blémard, il manque des personnels. Mais tout ça ne fait que 2% pour la rectrice d'Académie de Montpellier, qui soit a de mauvais renseignements de la part des inspecteurs d'Académie de chacun des 5 départements de l'Académie, soit alors... Eh bien, elle est tombée dans la propagande présidentielle et ministérielle.
Donc, affaire à suivre, j'imagine que vous allez encore rencontrer le.
Ah, mais là, on travaille régulièrement pour essayer de boucher les trous. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la crise de recrutement qui est liée à l'absence de revalorisation salariale et de dégradation des conditions de travail, on recrute de moins en moins de titulaires au moment des concours. Il y a de moins en moins de réussite au concours. On développe la précarisation par des personnels sous contrat. Mais aujourd'hui, dans un département comme ici, un chef d'établissement à qui manque quelqu'un leur dit « Allez voir à Pôle emploi, s'ils ont quelqu'un ». Et on sait que le bassin de recrutement lozérien, pour des personnels formés à minima à bac plus 3 ou bac plus 4 pour enseigner une discipline dans le second degré, c'est très difficile à trouver.
Toute dernière question, on s'arrêtera là-dessus. Est-ce que vous êtes confiant là pour rétablir le fameux dialogue social, comme on l'appelle, pour les prochains combats à venir, là, pour l'automne ?
Alors, rétablir le dialogue social, pour pouvoir dialoguer, il faut être deux. Il faut que les deux parties aient envie. Là où la FSU siège, la FSU est tout le temps ouverte au dialogue, mais nous avons une administration et des administrations qui, mois après mois, année après année, se refusent au dialogue social. Et tout a été organisé structurellement pour que ce dialogue social n'existe pas. Ce qui veut dire que la fameuse loi de transformation de la fonction publique d'Olivier Dussopt, si on a un nouveau gouvernement, ça devrait être une des premières lois à être éliminée pour remettre du dialogue social dans les fonctions publiques d'État, mais pas que, territoriales ou hospitalières. Parce qu'à ce jour, il n'y a plus de dialogue social. Et... les gens qui nous dirigent ou qui dirigent les administrations, même s'ils pouvaient en avoir quelques velléités d'un point de vue individuel, structurellement, sont dans la condition de ne pas tenir le dialogue social. Et c'est pour cela qu'on en a défendu, par exemple, des collègues pour leur mutation ou leur promotion pendant tout l'été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Et on n'a pas encore résolu toutes les difficultés posées. Donc c'est la preuve de la dégradation du dialogue social.
Donc la bataille continue dans la rue principalement.
Dans la rue, mais pas que.
Hervé Fumel, merci beaucoup à vous d'être venu jusqu'ici.
Merci à vous de l'invitation.
Guillaume Martin s'en est déjà allé, on lui dit merci quand même. Et ainsi qu'à vous tous les deux, Eric et Béranger, merci. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, Béranger.
Ça va, ouais.
Parfait. Merci encore à toi, Eric.
À bientôt.
Et on se dit à très bientôt sur 48 FM. Bonne journée.
Tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer. Sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je ne sers plus à rien moi, il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge.